En 2012, le parc national des Calanques est un espace naturel remarquable, terrestre et marin, qui abrite de nombreuses espèces animales et végétales. Le cœur du parc s'étend sur 85 km² sur terre et 435 km² en mer. Il accueille chaque année entre 1,5 et 2 millions de visiteurs. En 2020, ce sont 3 millions de visiteurs qui ont arpenté ses sentiers et profité de ses nombreuses criques et plages. Une surfréquentation notamment due à l'impossibilité de voyager à l'étranger à l'été 2020. Comment le parc des Calanques et ses équipes gèrent cette surfréquentation? Quelles sont les conséquences sur la faune et la flore du parc? On en parle tout de suite avec son président.
Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
Bonjour Didier Réau.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du parc national des Calanques. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes venu à prendre donc la présidence de ce parc national?
Ah, c'est une longue histoire. En fait, elle est liée à l'histoire de la protection du site des Calanques qui est né en 98 suite à un incendie à Sormioux. Et après plusieurs incendies récurrents, notamment à Morgeau en 79 et d'autres, qui ont fait que le maire de secteur de l'époque, Guy Tessier, a souhaité réunir l'ensemble des propriétaires, publics et privés, pour voir comment on pouvait lutter contre les incendies et surtout avoir une gestion cohérente du foncier. Et puis, chemin faisant, la réflexion a été poussée plus loin. En 2001, il a été créé un GIP environnemental qui était permis par la loi Barnier et qui, dans son article 2 des statuts, précisait qu'il avait vocation à préparer un parc national. Donc le parc national est né de ça. Comme j'étais à l'époque conseiller général à l'époque du canton de Mazars qui incluait les Calanques, évidemment que j'avais ce travail aux côtés de Guy Tessier et à l'époque aussi de Lionel Royer-Perrot pour préparer ce parc national qui donc a mis près de 12 ans pour se constituer après de multiples réunions de concertation. Alors d'abord à terre, puisqu'on avait ce focus-là sur l'aspect terrestre. Et puis après le Grenelle de la mer en 2008, l'État a souhaité qu'on ait aussi la partie maritime. Et donc il a fallu reprendre toute la concertation au niveau des acteurs du monde maritime qui n'avaient pas du tout anticiper cette logique-là. Donc on a repris 4 ans supplémentaires. Et à l'époque, en 2008, j'étais adjoint au maire de Marseille, chargé de la mer, du littoral et du parc national des Calanques. Et donc tout naturellement, en 2012, en 2013, lorsqu'il s'est agi de constituer le conseil d'administration, j'en ai été membre. Et puis, c'est vrai que j'ai postulé à la présidence du parc, maintenant un mandat que j'assume depuis 8 ans maintenant. Donc voilà l'histoire du parc national des Calanques.
Et de votre parcours, vous qui en êtes devenu donc le président, donc ce parc national des Calanques, il est un peu victime de son succès, il reçoit beaucoup de visiteurs, et notamment l'an dernier, ce qui est un peu ironique puisque c'était une année quand même avec plusieurs mois de confinement. Il y a eu une explosion de visiteurs pendant l'été. Avant qu'on parle plus de la surfréquentation, qu'est-ce que vous espérez ou redoutez pour la saison estivale 2021 qui va bientôt démarrer?
Alors d'abord, rappeler que l'ensemble des espaces naturels ici dans cette région, mais aussi en France, sont victimes de cette surfréquentation. C'est pas seulement les Calanques ou un parc national, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles, tous les sites remarquables en France et sur toutes les façades littorales notamment, sont pris d'assaut. Et on le constate, moi en étant président de Rivage de France, qui est une association qui regroupe les gestionnaires des propriétés du conservatoire du littoral, on fait tous le même constat, c'est une augmentation très importante de la fréquentation. Pourquoi? Mais vous l'avez dit, hein, le fait que on ne puisse pas se déplacer librement où on le souhaite et quand on le souhaite, fait que on va au plus près pour trouver des espaces de liberté. Et puis là, ça a été renforcé encore quand, ces dernières semaines, on a fermé l'ensemble des commerces et donc les centres commerciaux et ainsi de suite. Donc où aller quand on veut sortir de la maison? Donc le plus près pour les Marseillais, mais aussi pour les habitants de la métropole ex-Marseille-Provence, c'est évidemment les Calanques qui l'emportent, mais c'est le cas aussi sur la Côte Bleue où on a des Calanques qui sont aussi très fréquentés. Donc c'est un vrai sujet. Et pour 2021, je pense que là, le confinement, j'allais dire, s'effiloche et on espère bien que ça se termine et on risque quand même d'avoir une fréquentation importante cet été parce que je pense honnêtement que les gens y ont pris goût, que les voyages n'ont pas pu être anticipés, préparés comme on le souhaitait. On avait vu une progression du tourisme dit francilien qui avait augmenté de 25 à 30% pendant l'été, mais rappelons quand même les fondamentaux, 75% viennent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 25% de l'extérieur. Ça remet quand même en perspective l'impact du tourisme étranger ou national.
Et en même temps, cette appellation, ce statut de parc national, donc vous l'avez rappelé, ce qui est valable, la surfréquentation qui est valable dans les parcs régionaux, dans les espaces à voir, ça attire du monde. Donc évidemment, c'est un parc qui est fréquenté par les locaux, si on peut dire, les habitants de la métropole, mais ce statut de parc national, ça attire de fait plus de visiteurs ?
Alors, le statut de parc national, il est d'abord mondial, puisqu'il y a des parcs nationaux partout dans le monde. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a en Afrique, et donc il y en a partout dans le monde. Donc c'est une marque que l'ensemble de ceux qui aiment la nature reconnaissent comme étant un outil de protection de la nature et de la biodiversité. Et donc ils trouvent un intérêt à venir voir ce qui se passe dans les Calanques, qui sont elles aussi mondialement connues, bien avant le parc national. Donc on a effectivement un focus qui est fait sur le parc national, et en même temps il est métropolitain, c'est-à-dire qu'on peut y trouver toutes les commodités qu'on souhaite trouver lorsqu'on est touriste, tous les niveaux d'hôtels, tous les niveaux de restauration, tout ce qu'on peut faire, par exemple en allant à Aix-en-Provence, en allant dans les Alpes, il y a une diversité autour des Calanques qui fait qu'on a un produit touristique effectivement en Provence et plus généralement en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est effectivement très attirant, le parc national étant un surcroît d'attraction.
Alors, la région Sud a lancé la deuxième édition de la campagne de communication « On a tous besoin du Sud » pour essayer de sauver la saison estivale. Voilà, c'est la deuxième année qu'on a des fermetures de commerce, des impossibilités de se déplacer. Donc, évidemment, le tourisme joue un rôle très important dans notre région. Mais cette campagne vise à attirer les touristes français pour lesquels toutes les régions de France vont se battre cette année. Je cite François de Canson, l'élu du CRT. Tandis que le Parc National des Calanques a lancé une campagne donc de démarketing. Une réaction face à cette campagne « On a tous besoin du Sud ».
Mais on n'est pas contre le tourisme. On a évidemment cette mission à côté du cœur de métier du parc national, qui est de protéger la nature et de développer la biodiversité. Ça, c'est notre cœur de métier. On a une mission qui est deuxième dans le rang, qui est d'accueillir le public. On ne doit pas l'accueillir dans n'importe quelle condition. C'est pas vous rentrez, vous faites ce que vous voulez. C'est pas vous venez avec votre voiture, vous vous garez sur un parking et vous êtes à 200 mètres ou à 100 mètres du lieu où vous voulez aller, qui est le plus remarquable et où tout le monde veut aller. Donc je pense que on peut pas nier que le tourisme est un des trois secteurs les plus importants en termes économiques pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et particulièrement pour la Provence. Donc ça, c'est un fait. Et même sans la campagne de communication, je pense que on aurait quand même du tourisme. Donc ce fait, il est acquis. Après, nous, dans notre logique, c'est que le visiteur est le bienvenu. Il est le bienvenu s'il se met dans un esprit d'aller dans un espace de nature qui est un espace de tranquillité et de sérénité. Ça veut dire qu'il laisse son comportement urbain à la maison si possible, ou en tout cas dans sa voiture, garée le plus loin possible de l'espace naturel. Il laisse son enceinte connectée également. Et quand il s'en va pour faire un pique-nique, il ramène ses déchets. Il ne fume pas, il ne fait pas de bivouac, il ne fait pas de barbecue, il reste sur les sentiers. Parce que tout autour, il y a effectivement une richesse de nature et de biodiversité qui doit être préservée, et pour cela, elle a besoin de sérénité, de tranquillité. On l'a vu pendant le confinement, le premier, hein, les espèces sont sorties, elles étaient là avant, elles ne sont pas venues de l'extérieur comme des extraterrestres, mais comme c'était calme et qu'il y avait une quiétude, elles se sont montrées, elles ont repris leur terrain de jeu. Si on veut pouvoir apercevoir des espèces remarquables dans les Calanques, il faut savoir être calme, serein et respecter cette tranquillité, et c'est tout l'objectif de cette campagne dite de démarketing, qui est en fait une campagne qui est plutôt de détailler l'expérience que va vivre le visiteur selon le moment où il va venir dans la journée ou dans l'année. Il y a des moments où il va se retrouver sur des fonds de calanques, il pensera qu'il est à Marbella ou sur un rooftop à Marseille. Et ça, il faut le dire. Il y a d'autres moments dans la saison ou dans l'année ou dans la journée où ça sera autre chose, où il retrouvera, entre guillemets, de moins en moins l'été, hein, faut le dire, ces photos qu'on peut voir diffusées là aussi de moins en moins. Et en tout cas, quand elles sont diffusées parfois avec des messages de prévention, de sensibilisation par vos collègues de la presse écrite ou même audiovisuelle, qui annoncent que c'est un lieu de nature et qu'on doit le protéger.
Donc ça, c'est une campagne effectivement pour avertir les visiteurs. Mais qu'est-ce que vous mettez en place concrètement dans le parc national des Calanques pour vérifier, contrôler, parce que les gens viennent avec des enceintes connectées, les plages bondées, ça fait forcément beaucoup de bruit, la surfréquentation va forcément déranger la faune et la flore.
Alors d'abord, on a des agents de l'environnement, donc agents du parc, hein, qui sont présents sur les sites et qui sont mobilisés toute l'année. Et puis, c'est vrai que sur la période d'été, on prend du renfort. On a près de 80 personnes qui, tous les jours, sillonnent l'espace Calanque, on va dire, entre Marseille, Cassis et La Ciotat. Ils sont relayés, peut-être pas suffisamment, dans certains endroits, et notamment à Marseille, par la police municipale, qui a la mission de pouvoir réguler une certaine fréquentation, notamment sur les routes de Cassis, de Morgeoux et de Sormioux, hein, qui sont des routes du feu. Et on est en train de travailler pour avec la métropole pour mettre des aménagements qui nous permettent de mieux réguler le trafic sur la littorale sud de Marseille, c'est-à-dire entre Pointe-Rouge et Calelongue. Mais nous avons besoin de la ville de Marseille et de sa compétence légale de réglementation de la circulation et du stationnement. Si on veut développer le transport en commun, il faut qu'il puisse circuler et de façon fluide. S'il y a du stationnement anarchique, s'il y a trop de circulation, il est évident que le transport en commun n'a aucun intérêt. Et donc, on est dans cette logique-là. C'est tout l'objectif du plan d'accessibilité du parc qui a été concerté depuis 3 ans, élaboré par les équipes du parc avec l'ensemble des collectivités. Certains me demandent une table ronde aujourd'hui, mais la table ronde, c'est le conseil d'administration du parc national. C'est le conseil économique, social et culturel. C'est aussi le conseil scientifique qui ont donné tous des avis favorables à l'unanimité sur ce plan d'accès. Alors, ça demande des financements, très clairement.
Et donc, combien à peu près?
C'est environ 10 millions d'euros hein, sur des aménagements qui sont urgents et ils sont éligibles au plan de relance de l'État. Donc, il faut profiter de ces financements. Ça veut dire qu'en cette année et l'année prochaine, on pourrait avoir consommé 70 à 80% des 10 millions d'euros. Donc, honnêtement, on avait déjà, vous l'avez dit, hein, 2 millions de visiteurs par an. L'année dernière, on a explosé à 3 millions. Ça n'est plus possible d'accueillir autant de monde avec chacun leur voiture.
Les transports, c'est jusqu'à l'orée du parc national. Une fois qu'on a, par exemple, bougé les barrières plus loin pour que les voitures s'arrêtent plus loin du parc, qu'on a fait les bus une fois dans le parc, quel est l'impact, avant de parler de la faune et de la flore, sur l'aménagement du parc de cette surfréquentation? Est-ce qu'il faut, par exemple, rempierrer les chemins, refaire les sentiers?
Les sentiers, ils sont quand même assez bien identifiés. Hein. Beaucoup de gens qui vont dans un certain nombre de sites utilisent soit les routes du feu, à pied, soit utilisent des pistes d'essai qui sont quand même assez bien, même très bien entretenues par les différents propriétaires fonciers, notamment le département et la ville de Marseille. Ce qu'on recommande, c'est de rester sur ces sentiers qui sont bien identifiés, qui sont balisés par des bénévoles, je le rappelle, et de ne pas divaguer dans les espaces naturels, même si on pense qu'on marche sur de la pierraille, alors que dans cette pierraille, il y a des plantes emblématiques des Calanques qui sont pas seulement là pour faire joli. Je pense notamment à l'astragale sur l'escalette, par exemple. C'est pour ça qu'on a fermé l'escalette, qui est une plante emblématique et qui permet notamment d'être un habitat pour d'autres espèces des Calanques. Et donc, il y a toute une chaîne de biodiversité qui se déroule sur une plante qui doit faire 2 cm tout à ras, qu'on n'a pas l'ambition de croire que c'est une plante remarquable. Mais ça l'est et ça est utile pour le littoral. Donc il y a un certain nombre d'informations qui sont données par le personnel, je vous l'ai dit. Il y a aussi des panneaux d'interprétation du lieu où on se trouve, où on vous explique ce que vous pouvez voir. Éventuellement, s'il y a des travaux qui sont prévus, par exemple, comme à l'escalette, la restauration du chemin qui est bitumé, défoncé, en chemin piétonnier, eh bien, on va vous expliquer pourquoi on fait ça, comment, à quoi servent les poteaux reliés avec des fils de fer dont on se dit qu'est-ce que ça fait là. Eh bien non, c'est utile parce que ça protège justement les aménagements ou la protection de la plante qu'on a pu faire grâce à un programme européen qui s'appelle Life Habitat, qui a mobilisé là aussi l'ensemble des propriétaires propriétaires, l'Agence régionale pour l'environnement, maintenant l'Agence régionale de la biodiversité, et surtout avec des financements européens. D'un côté, on répare, d'un côté, on protège, et on risque, par le piétinement, d'avoir une destruction. Et donc ça, c'est notre métier au Parc national, et surtout le métier des agents qui s'en occupent, de faire de la prévention et de faire de l'information, et parfois de réprimer ceux qui vont aller bivouaquer, qui vont aller faire un feu de camp, ou qui vont laisser leurs déchets par terre, sans se préoccuper de ceux qui vont venir derrière, mais surtout des espèces qui vont peut-être les ingérer et ensuite en souffrir. Donc on est dans cette logique d'un accueil, mais d'un accueil qui est à la fois informateur, sensibilisateur et parfois répressif. Même chose pour le stationnement sur les espaces naturels.
Didier Réau, on se retrouve dans quelques instants. On écoute tout de suite « Too Many People » de Paul McCartney.
Planète, Nina Pavan, Dialogue RCF.
Vous écoutez Comme une planète sur RCF, nous évoquons la surfréquentation dans le parc national des Calanques avec Didier Réau, son président. Didier Réau, de manière générale, comment est-ce qu'on mène des contrôles dans un parc aussi étendu, aussi vaste? Donc on a parlé des équipes qui sont là toute l'année. Donc là, pour la saison estivale, vous avez déjà commencé à embaucher des saisonniers. Pour sillonner le parc, est-ce que vous pouvez peut-être un peu plus détailler leur rôle pendant l'été ?
Alors, leur rôle des saisonniers, ils ont plutôt une mission d'information, d'orientation, de sensibilisation. Tout ce qui est la partie réglementaire, donc qui peut aller jusqu'à une verbalisation, et de l'ordre des gardes-moniteurs du parc, donc qui sont des permanents et qui sont assermentés pour faire ce travail-là. Mais nous avons besoin d'avoir une présence humaine, donc c'est évidemment les agents du parc, mais ça peut être aussi les agents des municipalités. C'est le cas notamment à Cassis ou La Ciotat, où les municipalités sont très engagées sur l'accès notamment au parc national. C'est plus compliqué à Marseille, mais c'est pas récent, hein, je veux dire, ça date de plusieurs années, où on a du mal à mobiliser l'ensemble des équipes de police municipale sur l'accès au Calanque. Et puis ensuite, on a tous les services de l'État, hein, par exemple l'ONF est propriétaire sur le parc national. À ses propres agents qui sont en capacité aussi de faire ce travail-là. On a le Conservatoire du Littoral qui est aussi propriétaire. Il y a des propriétés privées donc qui ont leur gestion de leur territoire. Et puis l'ensemble des propriétaires fonciers ont leur gestion. Et en mer, c'est autre chose. On bénéficie là, puisque l'État reste souverain, si je puis dire, de l'ensemble des services de l'État qui ont largement fait progresser leur présence en mer depuis la création du parc. Et je tiens à le souligner.
Alors pourquoi ne pas faire payer l'entrée du parc national ? Certains parcs nationaux, donc pas en France, mais par exemple je pense à la Slovénie qui a un parc national dont l'entrée est payante. Est-ce que ça pourrait être un moyen de faire prendre conscience d'une autre manière supplémentaire aux gens qu'ils entrent dans un, pas dans un parc comme les autres, mais vraiment dans un espace naturel spécial et qu'il faut, dont il faut prendre soin ?
Alors moi, enfin en tout cas en France, c'est pas la logique. Hein. Les espaces naturels sont gratuits et c'est pas la mentalité française que d'aller vers une tarification pour leur accès. Et je crois que c'est lié au fait que l'ensemble de ces espaces, pour la grande partie d'entre eux, sont de nature publique. Ça veut dire qu'ils ont déjà été payés par le contribuable finalement. Et que leur entretien est aussi payé par leurs contribuables, qu'ils soient départementaux, métropolitains, nationaux, régionaux, etc. Il y a un financement public pour l'acquisition et pour l'entretien. Donc, personnellement, je trouve que faire payer l'accès, finalement, une fraction de propriété du contribuable, ça me paraît pas raisonnable. Par contre, effectivement, on peut, et c'est le cas en France aussi, avoir une tarification pour des services connexes. Par exemple de transport, de stationnement. Si vous voulez visiter les Calanques par la mer, vous avez un système de transport, mais vous payez un billet et vous payez sur ce billet une taxe qui est faite pour que les propriétés publiques et le parc national notamment perçoivent cette taxe. Et donc pour une année normale, c'est à peu près 450 000 à 500 000 euros qui reviennent au parc national. Donc voilà, je pense que l'accès en lui-même, non, mais qu'un certain nombre de services autour, oui.
Alors, vous m'avez donné une transition toute trouvée en parlant du littoral. Donc, le parc national des Calanques est un parc sur terre et en mer. Et la surfréquentation, elle aussi, se retrouve en mer, avec notamment de plus en plus de bateaux qui viennent mouiller près des criques, près des récifs. Et ça pose plusieurs problèmes environnementaux. Tout d'abord, comment est-ce que le parc peut réguler cet afflux de bateaux ?
Il ne peut pas le réguler tout seul. Puisque je le rappelle, l'État en mer est souverain, donc tout passe par la case préfet maritime. Et là, le préfet maritime a pris une décision que je salue et dont je salue le courage, qui est d'avoir un arrêté finalement sur l'ensemble de la façade méditerranéenne française qui régule le mouillage, notamment des bateaux de plus de 24 mètres. De façon à les éloigner de la côte et surtout éviter qu'ils mouillent sur l'herbier de Posidonie qui est le principal, enfin qui est une plante hein, et qui est le principal contributeur en mer, d'abord en garde-manger pour l'ensemble des espèces et puis aussi en captage de CO2 puisqu'il faut savoir qu'un hectare de Posidonie capte 5 fois plus qu'une forêt qu'un hectare de forêt tropicale et 7 fois plus qu'une forêt en tempérée, c'est-à-dire chez nous. Donc c'est quand même pas anodin. Et c'est vrai que cet arrêté va nous aider à gérer la plus grosse plaisance. Il a souhaité pour les parcs nationaux de Porquerolles et des Calanques, qu'on puisse faire des propositions de stratégie de mouillage sur nos territoires marins. Et donc, c'est ce que nous avons fait avec, évidemment, des interdictions, c'est déjà le cas, de mouiller sur l'herbier, des mouillages organisés si besoin pour que les plaisanciers puissent mouiller dans certaines Calanques.
Avec des bouées ?
Avec des bouées, mais en nombre très limité sur des espaces qui ne permettent pas de mouiller sur le sable. En règle générale, sur l'ensemble des Calanques, on arrive à mouiller. Il y en a une ou deux où c'est pas le cas, où c'est plus compliqué. Et puis, on a pris une décision forte qui est d'interdire le mouillage, alors là, complètement, sur les Calanques d'Envaux et la Calanque de Porpin. Voilà. Donc, vous pouvez entrer, vous pouvez naviguer dans ces Calanques, mais vous ne pouvez pas mouiller, vous ne pouvez plus mouiller parce que ce sont deux Calanques emblématiques et qu'il faut que le visiteur, alors là, soit à peu près assuré de trouver une Calanque qui soit comme on peut le voir sur la photo. Cette Calanque doit être finalement préservée parce que ce sont les Calanques emblématiques du territoire de Marseille.
Les bateaux de 24 mètres donc, sont repoussés plus au large, mais de nombreux bateaux, surtout de location, sont des petits bateaux et la plupart des gens ne sont pas forcément au courant où sont les herbiers de Posidonie, ce que c'est et même comment mouiller correctement, puisque un permis bateau qu'on aurait passé il y a des années nous permet de louer un bateau. Est-ce que c'est pas plus ça le problème ?
Alors c'est un vrai sujet, c'est un sujet qu'on a travaillé avec les professionnels de la location et qui font, je dois le dire, un vrai travail de sensibilisation auprès de leur clientèle. Et d'ailleurs, certains bénéficient du label Esprit Parc. Ils sont tous agréés par le parc pour pouvoir exercer cette activité dans le parc. Les propriétaires privés peuvent louer leur bateau 5 fois dans l'année pour aller dans le parc, pas plus. Ils doivent le déclarer. Et puis, ce qui pose de plus en plus problème, alors là, c'est la location illégale. Donc, soit par des particuliers, soit par des réseaux qui ont fait métier de ce commerce, dans toute l'illégalité possible, c'est-à-dire avec l'acquisition par des prête-noms de bateaux, la location sans tarif réel et sans information. Et ça, c'est un système qui se développe de plus en plus, à la fois dans les Calanques, mais sur l'ensemble du littoral, j'allais dire marseillais, provençal et de Côte d'Azur. Donc, on a un vrai sujet sur ce réseau de location de bateaux qui est complètement illégal et qui est anarchique. En règle générale, depuis quelques années, les professionnels sont très soucieux de donner cette information, de prévenir leurs clients et il en va de leur responsabilité.
Une dernière question, entre le confinement à l'année 2020 où on a vu justement les espèces, la faune marine, terrestre reprendre un peu ses droits et la surfréquentation dans la même année 2020 qui a battu tous les records, où en est la faune et la flore, en quelques mots, du parc national des Calanques?
Alors, le confinement, a certes, de l'année dernière, fait du bien. On est certain que la tranquillité et la quiétude a été bénéfique, mais on aura les premiers chiffres à partir de cette année et de l'année prochaine en fonction des comptages des naissances. C'est ça qui fait que finalement on s'aperçoit qu'une espèce va bien ou qu'elle ne va pas bien. Si elle se reproduit, elle va bien. Si elle a confiance dans le milieu où elle est, si elle a confiance dans l'avenir, et ça vaut pour nous humains, on est plus enclin à faire des enfants, à avoir une vision de l'avenir qui est rassurante. Mais en règle générale, oui, il y a une amélioration pour certaines espèces. C'est plus visible en mer, finalement, qu'à terre, parce que en mer, on a quand même des aires marines protégées qui sont importantes, qui sont, je le pense, plus surveillé, plus contrôlé, parce qu'on a là le renfort des services de l'État. Ça vaut pour la gendarmerie, la police maritime, les douanes, la DDTM, enfin bon, tous les services de l'État en mer sont présents. Et bon, on me dit des fois ils sont pas là, mais moi je vous dis ils sont présents et ils font des contrôles, ils font de l'information et ça joue. Je pense que le premier signe qui pourra nous permettre de dire il y a eu une réelle amélioration, c'est sur les oiseaux notamment. La charte du parc va commencer à être revue à partir de 2024. Voilà, et je pense que là ça se fera avec des acteurs qui seront beaucoup plus informés, qui auront déjà vu le bénéfice procure une aire protégée sur l'augmentation des espèces, sur l'augmentation de la taille de ces espèces. Et ça, je peux vous dire que tout le monde le remarque, même ceux qui étaient opposés au parc national. Beaucoup viennent me dire, mais vous aviez raison, finalement, ça n'aperçoit en mer, il y a une plus grande richesse. Et donc, je crois que c'est surtout ça le principal plaisir qu'on peut avoir à présider un parc national.
Merci Didier Réau d'être venu nous parler un peu du défi de la surfréquentation auquel le parc national des Calanques de Marseille se confronte. Je rappelle que vous en êtes le président. Merci à Gaël Barrera du Conseil diocésain Laudato aussi pour l'organisation de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur rcf.fr.